Alors, vous aviez compris dès le départ, parce qu'évidemment, du temps des batteux, là, c'est un monde, et quand arrive le monde des combines, il faut vraiment s'ajuster.
Oui.
Quel a été le gros ajustement?
Bon, là, justement, ça dépend dans quoi, là. C'est que ben, c'était plus facile au point de vue de main-d'œuvre. On faisait tout l'ouvrage, nous autres même, tandis qu'avec la batteuse, ben là, il fallait engager du monde. Des hommes.
Donc, ça c'est le premier point.
Oui.
Donc, moins de dépendance.
Oui.
Et qu'est-ce que ça vous donnait comme flexibilité supplémentaire? Qu'est-ce que ça vous permettait de faire d'autre?
Faire autre. Ben là, peut-être pas tellement plus, mais c'est que là, on faisait notre terrain seulement. On n'allait pas faire le battage des voisins.
Et les voisins, ils se débrouillaient comment alors?
Là, je ne sais pas. Parce que d'une année à l'autre, il y en a qui achetaient une petite combine. Ou ceux qui avaient un moins grand terrain, bien, qui avaient une combine, ils allaient battre. Je pense que c'est de cette façon-là qui.
Mais pourquoi avant, après tout, c'est peut-être pas une mauvaise question, pourquoi le batteux de votre père était utilisé par d'autres aussi?
Ben parce qu'il y
Il
en
le
avait.
louait aux
Il y a,
autres.
non, 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 il n'était pas loué. C'est que
C'est ça.
mon père allait là, puis là, OK, s'il battait à tant d'heures, il chargeait pour tant d'heures. Puis c'est de cette façon-là qu'il payait le battage. Demain, il n'y a pas besoin de faire débourser un gros montant pour acheter une batteuse. Comprends?
Ah, c'est très intelligent, ça.
Ben oui.
Alors, c'est
Puis
le système
même.
qu'il avait pour être propriétaire de la batteuse.
Oui.
Et puis d'en faire profiter les autres en même
Oui.
temps, et puis pour que ça lui revienne tout à fait à un prix raisonnable. Il mettait où son grain?
Dans des graineries.
En bois?
Oui. Oui, dans ce temps-là, c'est un camp bois.
Alors il y avait combien de graineries à la ferme?
Ça dépend quelle année.
Ben, quand vous êtes petit, là, bon point.
En bois. Je ne sais
En
pas si toi
bois.
tu sais, mais moi, là, j'ai des photos, mais je ne sais pas où.
Non, je ne voudrais pas dire. Il y en a une que je vois encore. C'est une grainerie qu'on rentrait en dedans avec les voyages de grains. Puis là, ben, il fallait vider les wagons ou le camion avec une soucoupe. Une soucoupe à grains.
Elle pouvait contenir combien de minots?
C'était assez grand. Oh, combien de minots? Même plusieurs milliers de minots. 3, 4, 5 000. Puis il y en avait d'autres à part de ça. Comme là, ben là, on reculait vers la bâtisse, puis il y avait une petite porte, pour envoyer ça dedans. Puis
Donc,
quand il y a.
les plus pratiques, d'un
Pratique.
point de vue pratique, c'était les grosses graineries ou les plus petites?
Ben, les grosses, oui.
Pourquoi?
Ben, parce que là, au moins, on était à l'ombre pour, pour travailler. Puis, à part de ça, ben, c'est tout dans le même bâtiment. Puis, si on avait affaire à surveiller, ben, tu rentrais dans l'allée, puis tu regardes là. Tandis que quand c'est une petite, ici, t'es là dans le cours, ben, là, c'est. Non, c'est pas si facile. Mais je ne sais pas pour quelle raison qu'il a construit cette grandeur-là. On l'avait vu avant. On l'a vu ailleurs aussi que c'était le même principe. Fait que c'était, pour moi, c'était un des meilleurs.
La grande grainerie.
Oui.
Et donc c'est quelque chose qu'il avait vu quelque part et qu'il avait adapté.
Probablement. Je sais que chez moi, mon grand-père, c'était le même. Fait que ça vient peut-être de là.
Qu'est-ce qu'il y avait comme toit?
Un bardeau de cèdre.
Un bardeau de cèdre.
Oui.
Elle a survécu longtemps?
Oui.
Est-ce qu'elle a eu à un moment donné d'autres utilités, cette grainerie?
Non, pense pas, non. Non, c'est simplement pour du grain. Moi, puis aussi, un autre avantage, c'est que le printemps, on criblait notre propre grain
Ah
avant
bon?
les semences. Parce que là, ça faisait un abri. On mettait le crible dans l'allée. Puis si on y avait du grain, mettons, dans le carré du bout, ben là, on plaçait le crib là, puis on fait pas loin à mettre le grain dedans.
Alors, le crib. Vous en aviez qu'un?
Oui.
Qu'est-ce que c'était comme crib?
Crib, ben,
vous vous souvenez de. Il y avait une marque particulière?
Je pense que c'est un bulldog.
OK.
Moi, certain que c'est ça.
Alors, est-ce que vous avez toute une série de passes différentes?
Oui.
Qui c'est qui avait le don pour cribler là chez vous?
Ah ben c'est mon père qui surtout qui faisait ça. Puis moi j'en ai fait moi aussi.
Ça a été un défi?
Défi, je sais pas.
Non,
je pense pas.
Vous avez trouvé ça facile cribler?
Oui. Oui. Bon, il s'agissait de savoir que si c'est du blé, mais là il y a des passes pour le blé. Ça dépend de la grosseur du grain aussi.
Oui.
Ça prend des grosseurs, des trous plus petits, plus fins, dépendant de la grosseur du grain. Puis là, on va regarder qu'est-ce qui se retient en dessous. Puis si c'est satisfaisant, bon, OK, c'est demain, ça marche. Puis aussi, après ça, il y a des fois qu'on traitait le grain avec la formaline.
Le grain traité à la formaline?
Oui, juste avant de semer. Là, pour...
Ça, j'ai pas entendu ça encore.
Non, pour certains. Mais pour quelle raison c'était traité, là, ça.
Elle venait d'où, cette formaline?
Ben, c'est un produit qu'on achetait au magasin. Spécialement pour traiter le grain.
Alors, vous le répandiez comment? Vous l'incluiez comment?
Non, mais c'est en le mettant, quand on le mettait dans la semeuse.
Okay.
Là, il était traité, là. Soit que on mettait pas ça en sac. Non. Soit que c'était envoyé dans une wagon pour ramener dans le champ pour semer. Ça, c'est le grain était comme mouillé. Fait qu'on ne faut pas le faire ça d'avance.
Ben non, justement. Ben alors, concrètement, là, expliquez-moi comment vous faisiez le mélange entre le grain et la formaline.
Ben c'est que y avait une machine exprès.
Ah!
Puis la formaline était dans cette machine-là, puis on mettait du grain dans un genre de hopper. Puis là, il en coulait un temps à la fois. Puis je pense que ça passait dans ce liquide-là. Puis après ça, ben là, en montant, ben, ça s'égouttait. Puis ça tombait dans le wagon.
Ça a duré combien de temps, cette histoire de formaline?
Oh, ça n'a pas duré longtemps. Je ne sais pas pour quelle raison. Là. Non, je ne pourrais pas dire.
Non?
Non.
Ça, c'est un détail intéressant. Et donc, ça, c'était après, une fois que vous cribliez le grain, il allait où?
Ah, ben là, on envoyait ça dans un autre carré, dans la même grainerie, justement. Ah. Ou, c'est même, je pense qu'on a déjà fait pour des voisins. Là, ben, il y avait le camion là, à la porte, puis on l'envoyait ça dedans, à mesure qu'il était criblé.
Alors, finalement, cette grainerie, elle avait quelle taille, à peu près, vous diriez?
Oh, 50 pieds de long, puis de largeur, au moins 30. Oui.
Alors, j'aimerais quand même que vous me parliez un petit peu plus du criblage.
Du criblage?
Vous l'avez fait plusieurs fois?
Ah, oui.
Alors, qu'est-ce que vous avez... On a parlé tout à l'heure de comment l'expérience est importante quand on moissonne. Il doit y avoir aussi quand même des trucs de cribleur, M. Danfousse.
De cribleur, oui. Mais les trucs, je m'en souviens pas. Mais je me souviens d'un autre détail... qui continue ça, c'est qu'on a, à un moment donné, on a acheté du grain de semence certifié ou enregistré.
Mm-hmm. Parce qu'il y a
deux,
les deux sont bons, mais
les
pas
deux.
La même chose.
Hein? En tout cas, certifié puis enregistré. Là, pour me satisfaire, on a semé des deux. Celui qu'on a produit, puis l'autre qu'on a acheté, qui était certifié. Puis, comme de raison, j'ai pas eu la chance de peser le grain pour la différence de rendement dans les deux champs. Mais j'ai vu une différence de couleur. Celui qu'on a produit, c'est comme une couleur jaunâtre. L'autre, un vert foncé. Donc là, je me suis dit, mais c'est mieux. Puis la raison pour ça, c'est que c'est du grain qui a été produit dans une autre terre que tu mets dans une terre nouvelle. Parce que c'est pour ça, surtout pour ça que le rendement il est meilleur, soit au point de vue maladie, puis après ça, bien, le rendement qui est... Puis j'ai réalisé que, ouais, c'est vrai qu'avant ça, on emmenait notre grain à l'élevateur pour faire cribler, c'est que ça allait plus vite. Mais là, c'est que ça fait bien du manœuvrage de grain. Puis on en perd toujours un peu, c'est pas une grosse quantité, mais si on additionne tout, je sais bien que c'est aussi... Ouais, c'est aussi, comment dire, économique l'acheter que de le semer le grain qu'on produit. Que ça paye, tu payes plus cher, mais avec tous ces manœuvrages de grains puis d'ouvrages que tu fais, non, c'est puis pour ça, bien, là, tu es sujet à prendre le celui que tu as produit, qui est moins bon que d'autres que tu vas acheter. Fait que de cette façon-là, on trouvait que c'était plus rentable.
Donc, à un moment donné, une fois les expériences faites, vous avez choisi d'acheter plutôt du grain certifié.
Oui.
Et puis, de plus vous borderez avec du criblage ou de l'emmener à l'élévateur ou des choses comme ça.
Ça, c'est depuis 1965. C'était avec les voisins, les parents, cides, qui avaient le grain nécessaire pour ça. Puis là, lui, il achetait du grain d'un peu partout, qui venait même dans d'autres districts assez loin, qui est encore mieux que si ça aurait été juste le voisin.
Oui, c'est comme pour le principe des taux enregistrés.
Oui,
Il n'y a rien à faire. Hein?
Non.
Il vient d'une autre terre.
Oui, oui.
Il y a quelque chose.
Oui.
Alors donc, est-ce qu'il y a eu une espèce de... Et ça, vous avez pu le faire parce qu'il y a eu parencide, c'est ça?
Oui, mais ça nous a aidé. Mais pour le... oui. Parce que là, on n'ira pas loin, il faut acheter notre semence.
Oui.
Puis, ça nous a aidé, certainement.
Alors, vous n'avez pas criblé pour beaucoup d'années?
Non, pas tellement. Non, je pense que mon père en a fait plus que moi. Comme de raison, il a commencé à vendre ici.
Et donc, le petit crible... Est-ce qu'il a décidé de l'acheter quand il ne voulait plus aller à l'élévateur?
Non, c'était avant, ça. C'était avant. Parce qu'à l'élévateur, il n'y avait pas des cribles pour en faire une grande quantité.
C'est ça.
Parce que là, c'est surtout les fermiers qui avaient leur propre crible.
C'est ça.
Puis après ça, quand ça sortit à l'élévateur, bien là, ça se faisait plus vite. Mais là, on s'est aperçu que ce n'était pas la meilleure chose non plus. Parce que tout à chacun amène du grain, là. Puis il peut y avoir des résidus qui restent dans des coins des fois. Puis ça tombe, puis tu le ramènes. Là, je ne sais pas si c'est une anecdote qui vaut la peine d'être mentionnée, mais c'est un agent d'élevateur qui m'a déjà raconté que c'est dans le nord de la province, il y en a qui faisaient cribler du grain. Puis là, c'était avec des chevaux. Il a amené son grain dans le wagon. Puis là, il se demandait, comment est-ce que c'est qu'il m'a ramené mes agrès? Fait qu'il y en a qui ont dit, ben, m'allez pas du temps par-dessus l'autre, amène-les chez vous. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben peux t'imaginer ce qu'il en arrive? Il était là pour rien.
Ben oui.
Oui. Donc, c'est un... Il peut se faire élever d'un mélange.
Oui, c'est puis ça, même, c'est le problème même, du mélange.
Oui, puis ça peut être un mélange de nouvelles... sorte de graines de mauvaises herbes que tu n'avais pas avant, puis que tu amènes ça chez vous. Mais là, quand tu as du grain enregistré, tu sais qu'il faut qu'il se soit propre. Autrement, ils ne peuvent pas le vendre.
C'est ça. Il est contrôlé.
Oui.
Alors, depuis 65, vous n'êtes plus cassé la tête?
Non.
Alors, pour les graineries, Donc, il n'y avait plus besoin du petit crible à la grainerie.
Non,
vous avez commencé à en acheter des métalliques.
Oui, bien, avec les années, il y avait plus grand terrain, fait que ça prenait plus de grainerie. Fait qu'on a rajouté d'autres, là, c'était des graineries en tôle.
Il n'y a pas de question de crible, là.
Non.
C'était juste pour la grainerie.
Quand est-ce que les graineries en tôle ont commencé?
Puis, à peu près dans ces années-là, 60, 65.
Qu'est-ce qu'elles avaient comme avantage?
Avantage, bien, c'est que ça ne polissait pas. Puis, quoi d'autre? Bon, c'était un peu plus facile à nettoyer après qu'ils sont vides. Puis, Il n'y a pas d'année dessus.
Peut-être
un an. Oui, 60 et... Il y en a dans le bord.
69.
Oui.
C'est une idée.
Oui, puis là, je faisais bien quelques années qui étaient là, à peu près 65.
Alors, dès qu'il y a eu les graineries en tôle, qu'elles ont été disponibles, des graineries métalliques, évidemment, vous en avez acheté, quoi.
Oui.
Est-ce que vous vous souvenez des prix de ces graineries-là?
Non. Non. Les premières, c'est pas moi qui les ai achetées. Que... C'est mon père. C'est mon père. En 69, 65. Oui, c'est à peu près dans ces années-là qu'il a arrêté.
Alors lui, il a été fermier, mais jusqu'au bout, quoi.
Oui. Ah oui.
Il avait la passion ou...
66
qu'il a laissé. Ben, il a laissé en 66. Ben là, j'ai marqué 69, mais ça fait quelques années qu'il était là.
Oui, c'est une photo avec l'auto à Gérard. C'est surtout ça.
Oui.
J'ai des combines aussi.
Non, les prix. Non, pour ne pas dire.
Bien. Et puis une grainerie, donc après, c'est indestructible?
Presque. Parce qu'il existe encore. Ils sont encore debout, puis ils servent. Ça dure plus longtemps qu'une grenée de bois, définitivement. Puis à part ça, ben, si ça donne d'avoir des souris, des rats, ben, ils ne touchent pas. Tandis qu'une grenée de bois, ben, ils rongent un peu, puis après ça, il y a du grain qui coule. Puis...
Oui, donc un autre problème en moi.
Oui.
J'ai cru comprendre à un moment donné que quand il a commencé à y avoir depuis peut-être 10-15 ans des grosses graineries, que là, le grain ne gelait plus complètement l'hiver. Et que ça pouvait occasionner des problèmes. Avez-vous eu des problèmes au niveau de graineries plus grosses?
Oui, un désavantage de ça, c'est que une grainerie de bois, parce que ça prend de l'air. L'air passe en travers du bois.
Okay.
Tandis qu'en travers du métal, non. Fait que là, c'est comme. Puis s'il y a de l'humidité en dedans, c'est là qu'il peut, il peut se produire des bébites ou. Je me souviens une année, entre autres, qu'on avait tout battu le grain sec, puis il était tout rentré dans les graineries. Puis là, moi, je sais-tu, mais là, on est comme garanti que ça va se conserver. La première neige qu'on a eue, j'ai vu qu'il y avait un rond sur le dessus, qu'il n'y a pas de neige, puis qu'il n'y avait pas partout ailleurs.
Ah oui.
Fait que là, j'ai monté, j'étais ouais. Puis j'ai regardé dans la porte du haut bord, puis non, le grain était sec, puis tout lousse. Ah oui, il n'y a rien là. Mais après, j'ai été redescendu, il y a quelque chose. Puis j'ai remonté, puis là, ben, j'ai regardé dans la porte du milieu, là, ce qu'il y a dessus. Mm-hmm. Puis là, ben, il y avait un rond, là, justement, le rond qui n'a pas de neige, mais il y avait du grain de jarmin, 3-4 pouces de long. Puis là, on a enlevé une galette, c'était rouge, le bébite. Fait que, pas l'avoir, maintenant, si on aurait dit, bon, il est en sécurité, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, bien, on aurait tout perdu. Mais là, il a fallu l'y voir. On a tout sorti que ce qu'on a pu, dessus le dessus. Là, comme on a des bébites, il y en avait dedans. Donc là, ben, il a fallu l'en vider. On a sorti deux voyages de troc, à peu près 1000 minots. Puis on a mis des pelules dedans pour fumiguer.
Pour la fumigation.
Oui, fumigation. Fait que là, on va le sauver. Mais, oui, on se pensait.
C'est arrivé une fois?
Oui, une fois. Ben, il y a une autre fois, c'était avec du canot, là. On pensait qu'il était assez sec pour se conserver. Mais non, à un moment donné, on était ouvert, puis il était tout pris d'un pain. C'était plus bon. C'est comme ça a chauffé. Puis on l'a pas vu assez vite. Il faut sortir ça avec presque à la graine. Pour tout casser ça pour.
Et ça va vite, ça?
Ah, oui, oui. Oui, puis le canot-là, c'est encore pire.
Pourquoi?
Parce que il n'y a presque pas d'air. C'est les petites graines. En étant plus petites, c'est toutes cordées l'une sur l'autre. Puis il n'y a pas d'air qui passe en travers. Puis à part de ça, je pense que la graine de canola était plutôt sec. Mais il y avait des graines de mauvaises herbes qui étaient presque vertes. Puis ça, puis ces graines-là, ça reste tout dans le centre. Qu'est-ce qui est plus sec, ça s'en va dans le côté, dans le tour. Puis c'est de cette façon-là que ça partit à chauffer. Puis ça, c'est gaspillé.
Alors, c'est comme vous dites, on revient à la question de la combine, c'est ouais. L'expérience.
Mm-hmm.
Il y a du nouveau, mais quand même, il faut guetter tout le temps.
Ah oui, il n'y a rien de parfait. Il faut toujours surveiller nos affaires.
Alors, est-ce qu'il y a quand même un certain type de grainerie qui semblait moins propice aux problèmes que d'autres?
Non.
Est-ce que la forme pourrait jouer?
Non.
La taille, la hauteur, rien à faire. Hein?
Non. Puis, je pense que dans ces graineries-là, le secret, c'est d'avoir de l'air pour pousser dedans, pour le refroidir, au plus tôt possible.
Comment ça s'appelle ça? Qu'est-ce que vous mettez à côté de la grainerie?
Ben oui, c'est un éventail pour souffler de l'air.
Dedans.
Oui.
Alors, autrement dit, ce que vous me dites, c'est que dans les premiers temps, il n'était pas question d'installer des
non,
éventails.
Non, on ne connaissait pas ça, ça n'existait pas. C'est avec le temps qu'ils ont découvert que c'était... Oui. Parce qu'il y a des périodes dans l'été quand on fait les battages, la température peut être, je ne sais pas, dans ce temps-là, c'est un 90 degrés. Fait que tu rentres ça dans des graineries, puis c'est tout comme un pain chaud, ça. Là. Puis là, ben, si ça donne à avoir des... un épi de bubite, une épidémie de bubite, bien ça, là, c'est leur plaisir, ça, là-dedans. Ils sont à l'abri, puis ils sont à chaleur, puis ça se reproduit, ça prend pas de temps.
Et il n'y a pas moyen de savoir quand on met le grain dedans?
Non. Non, justement, c'est pour ça qu'il faut le refroidir. Si ça se maintient, si on peut le refroidir à un certain degré, là, il n'y a pas de danger. S'il y en a, là, ils se reproduiront pas. Puis le mieux de tout, c'est que quand il fait très froid, c'est là, c'est le temps de passer de l'air dedans.
Ah bon? Puis là, vous avez découvert ça vous-même?
Oui, oui. Puis il faut que ça soit très froid. Juste refroidir, c'est pas assez. Parce que là, les bébites sont là, puis ils dorment. Puis ça, ben, il y a une année, je ne sais pas s'il y en avait plus que d'habitude. On a emmené à l'élevateur pour voir, puis eux autres, mais ils mettaient ça dans un plateau, puis ils mettaient la chaleur au-dessus d'un gris, la chaleur. Mm-hmm. Puis au bout d'une minute ou deux, là, je voyais les bébites commencer à marcher. Mais avant ça, il n'y avait rien. Puis presque chaque voyage de grain qui arrivait à l'élevateur, il fallait qu'il fasse ça, parce qu'il ne pouvait en avoir. Puis là, on rentrait ça dans l'élevateur, là, ça contaminait tout le lot de grains qu'il y avait. C'est pour ça qu'il...
Alors, l'ennemi du céréaliculteur, c'est la bibite.
Oui, c'en est une.
Il y en a d'autres?
Oui.
On veut des noms.
Bien, je ne sais pas si on appelle ça un ennemi, mais il y a la température qui faut... C'est toujours à surveiller.
Mais on ne peut rien faire contre.
Non. À moins que si tu vois que tu es nassé, ben là, tu peux les contrôler. Mais avant ça, là, non. C'est juste des précautions à prendre pour éviter ces problèmes-là. Mais il faut être au courant.
Là, il faut que vous me réexpliquiez, là.
Ben, les problèmes de bubite, oui. Comme par exemple, Mais là, là pour ce, on peut pas rien faire. C'est le moment. Mettons, on entend des battages. Non, on rentre dans le grain, puis on espère que s'il est là pour le bon, il est en sécurité. Mais il faut le surveiller. Même puis encore là, je reçois une revue de le coopéreux. Puis à différents temps, durant l'hiver, il y en a qui avertissent les fermiers de surveiller leur grainerie. En cas il peut y avoir des bébites, puis s'il en trouve, pas attendre au printemps pour aller voir. Parce que le grain peut être contaminé pour le bon. Puis. Donc, c'est des choses que je suivais depuis longtemps.
Mais est-ce que, puisque vous avez une vaste expérience au niveau des céréales, est-ce qu'à un moment donné, il y a toujours eu des bibites comme ça?
Non. Non, je pense que ce n'est pas tous les ans. Il y a des années que c'est pire que d'autres. Fait que si ça donne à être une pire, mais c'est là que tu peux tomber dedans et avoir des problèmes graves.
Mais quand
mais c'est... Non, les premières années dans le temps, des graineries de bois, là, non. On n'a pas vu ça.
C'est ça. Donc, ça c'est vraiment... On vient de faire quelque chose de très intéressant.
Mais la quantité de grains n'était pas la même non plus.
C'est ça.
Puis, il y a une autre expérience qu'on a faite avec le canola. C'était dans une grainerie de bois. Puis, il était tard même, je pense qu'il neigeait un petit peu quand on l'a battu. Puis, la graine n'était pas sèche. Dans ces graineries de bois-là, mais comme raison, il n'y avait pas de système d'aération.
Mais, non.
Mais on a planté des 2x4 dans la graine de lin au plus profond qu'on a pu. Puis, je pense que c'est de même qu'on l'a fait sécher. Quand on l'a sorti, il était pas sec, mais tout proche. Bon, j'ai entendu dire ça de d'autres, puis j'ai essayé, puis ça a marché.
Je savais
pas ça. Oui, c'est dans le grain des bois chez nous.
Alors donc, ça vaut la peine de garder des vieilles graineries de bois?
Oui, jusqu'à certains points.
Jusqu'à quel point?
Bien, on ne sait jamais quand est-ce qu'on a de besoin. Comme là, cette année-là, on aurait aimé bien mieux le ramasser en bonne condition, mais c'était pas prêt. Puis le mauvais temps où l'hiver est arrivé, puis il a fallu le faire. Puis c'est une plus ou moins une expérience qu'on a faite. Puis on l'a sauvé.
Et puis ensuite, quand vous avez. Quand une telle expérience connaît un succès, est-ce que vous partagez ce succès?
Oui.
Vous transmettez l'information?
Oui, surtout par le fait qu'on va travailler ensemble, puis même on rencontrait d'autres mondes. Puis,
Vous leur faisiez part?
Oui, oui.
C'était comme une victoire?
Oui, justement.
Une victoire sur les bibites?
Oui. Puis il y en a à d'autres points de vue aussi, comme avec les engrais.
Racontez-moi ça.
C'est que, les premières années, on en mettait toujours parce que d'autres en mettaient.
Mm-hmm.
Puis, écoutez, si on n'en met pas, on en avait moins que les autres, je suppose. Mm-hmm. Mais non, je n'étais pas satisfait de ça. À un moment donné, il y a un automne, quand on avait étendu, j'ai laissé une lisière. J'ai planté une baguette, chaque bord de la lisière. Puis là, l'année suivante, on a semé du blé. Puis, quand on est venu pour le soirée, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de différence. Ça donne rien d'en mettre ou pas d'en mettre. Fait que, là, c'est pas moi qui faisais l'ouvrage, c'est moi, un de mes frères. Fait que, je dis, oui, mais pourquoi faire ça séparément? Non, mais c'est un test que je veux faire, puis je veux me satisfaire. Fait que là, on est parti, puis c'est une chance que c'est un self-propel, soireux, puis on peut suivre les rangs de semeuse. Fait que là, on s'en allait, puis on a reviré. Un peu plus loin, on a vu que c'était pas tout à fait la même couleur, cette lisière-là. En tout cas, on l'a battu séparément.
OK.
Puis on l'a pesé séparément. Mais il y avait une différence de 8 minutes de l'arc. Puis ça, c'est pas rien que l'apparence, c'est un fait.
Là, exactement, là, c'est
là. Oui. Puis...
Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion?
Bien, comme conclusion, c'est que ça vaut la peine d'en mettre. Fait que là, en tout cas, c'est les agronomes qui venaient avec des recommandations plus hautes dans ce temps-là. Fait que là, ben, c'est un peu ça. C'est pour ça que je me suis dit, ben, on va essayer de prouver si c'est vrai ou non. Fait que là, ben, il disait, ben, quelle quantité? Ben oui, mais il faut prendre des échantillons de terre pour faire analyser. De cette façon-là, ils peuvent nous dire que comment ça en prend. Puis c'est de ça, avec ça que j'ai que je me suis guidé.
Mon nom est Bernard Bockel. Je suis toujours en compagnie de M. Henri Danfous. Nous sommes le 22 mars 2007 à Saint-Boniface et le temps est encore gris. Et nous poursuivons notre entretien en abordant une autre expérience au niveau de la culture des céréales.
Surtout avec au point de vue engrais, c'est que... Avec le temps, les sortes d'engrais changent. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il y a une année, je ne me souviens pas quelle, là, avant ça, on servait toujours de l'engrais granulé. Puis là, ben, là, on a su qu'il y avait de l'engrais en liquide. Puis on a hésité avant de faire le changement. Donc, cette année-là, encore, je lui ai dit, on va laisser une lisière pour voir s'il y a une différence dans le rendement et même la qualité. Mm-hmm. Puis il y en a eu une grosse différence. C'est que la lisière qu'il n'y a pas eu d'engrais, le blé était plus court et plus clair. Puis par le fait même, en étant plus court et plus clair, quand on l'a coupé, il a calé au fond. Comparativement avec l'autre qui avait un meilleur chaume, il n'a pas supporté les SWAT. On va dire qu'il n'y a pas eu de d'engrais. Ça a rapporté peut-être, je pense, c'est 15 000 $. De l'autre côté, où il y a eu dans l'engrais, mais ça a rendu du 30, 40. Ça, c'est pas. C'est parce que qu'est-ce qui a fait la grosse différence, c'est que qu'est-ce qui était caillé dans le fond, on n'a pas été capable de le ramasser presque. Si c'est germé, ou en tout cas, était trop mince, puis ça caille dans le fond, puis là, la combine ne pouvait pas le ramasser. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont resté à la terre. C'est ça qui fait la grosse différence. Mais on a vu que c'était mieux. Fait qu'on a continué.
Et là, vous parlez de cet engrais liquide.
Liquide, oui.
Vous vous souvenez d'un nom?
C'est du. Liquide. La composition. C'est du l'azote puis le phosphate. Ça, c'est...
Alors, pourquoi ils sont passés du granulé au liquide?
Ben, c'est qu'on pouvait l'appliquer en préparant le terrain pour semer.
Ah oui.
Puis surtout avec les grosses recommandations qu'on avait, soit du département d'agriculture, ou des analyses de terrain qu'on faisait faire. Mais là, ils recommandaient une dose assez forte. Fait que ça voulait dire beaucoup de d'engrais à appliquer. Puis avec le grain, ben, il fallait en remplir la semeuse souvent. Ou même, je pense avant ça, on l'étendait avec un épandeur spécial pour l'engrais granulé. Mais il y a une autre différence qu'on a vue, c'est que quand il est sur le dessus de la terre, on n'a pas les mêmes résultats que quand il est incorporé dans la terre avec le liquide. Le liquide, oui. Le liquide, c'était envoyé dans la terre, en arrière des pioches. Après ça, ça se recouvrait. Parce que le granulé qui était étendu sur la terre, bien, ça s'évaporait. Puis on n'avait pas le plein rendement, là.
Alors, à ce moment-là, il n'était plus question d'acheter du granulé.
Non.
Mais est-ce qu'il s'en vendait encore?
Ah oui. Même s'il en vend encore aujourd'hui. Mais peut-être pour d'autres façons de l'appliquer.
Parce que la clé, évidemment, c'est la manière dont
oui.
On l'applique.
Oui. Puis, anciennement, avec le granulé, c'est qu'on étendait le nitrophène ou l'azote, puis le phosphate était appliqué avec la semeuse. Parce que là, avec le liquide... On appliquait les deux en même temps. C'était comme mélangé ensemble. On mettait la bonne recette. C'est moi, c'était tout appliqué en même temps. Fait que là, quand on venait pour semer, on mettait du grain dans la semeuse, puis marche.
Alors, je vais vous poser la question difficile. C'était vers quelle année? Parce que c'était un gros... On parle d'un gros changement.
Là. Oui, oui. Je ne sais pas si je ferais une erreur en disant que c'était en 1980.
On va dire vers 1980.
Oui.
Donc, c'était, disons, une dizaine d'années avant que vous n'arrêtiez.
Oui.
Ça oui. Fait du bon sens?
Oui.
Alors, oui. Dans les années 80, dans vos 10 dernières années actives, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences intéressantes que vous avez pu faire?
C'était la plus importante, je pense. À part ça, on a fait, c'est peut-être dans d'autres domaines.
Mm-hmm.
Ça, c'est avec le tournesol. C'était la première année qu'on en semait, puis là, ils ont dit il faut mettre les herbicides. Fait que là, encore là, pour être certain de notre coup, on va faire un essai. Fait que il y a une lisière qu'on a semée, la même quantité de graines à l'arc, puis pas d'engrais comparativement avec l'autre qui avait de l'engrais qui avait été recommandé. Mm-hmm. Bon, ben, la lisière qui n'a pas eu d'engrais, c'était zéro comparativement à 2000 livres à l'arc. Parce que c'était assez infesté de mauvaises herbes qu'il ne restait plus rien. Les soleils, le tournesol, ils ont poussé, mais ils ont resté là. C'est les mauvaises herbes qui ont pris le dessus. C'est que, avant ça, là, quand la première fois que je l'ai remarqué, je travaillais dans un champ un peu éloigné, mais je voyais. Puis je me demandais qu'est-ce que c'était. Il y avait une lisière là, qui n'était pas comme les autres. Mais c'est cette lisière-là qui n'avait pas été fertilisée. Fait que, finalement, le résultat est que, où il n'y a pas eu d'engrais, là, c'est zéro. Comparativement à 2000 livres à l'arc, où est-ce que c'est qui avait été fertilisé?
Oui, parce que l'engrais donnait la force oui. À la plante.
Oui. Puis y a pas, non, c'est pas rien que l'engrais, là. Excusez, c'est le produit chimique.
Les herbicides. Justement.
Les herbicides.
Donc, c'était le mélange de fertilisants plus d'herbicides.
Oui.
Qui faisait que la plante pouvait prendre le dessus sur les mauvaises herbes.
Oui.
Et autrement, elle n'avait aucune chance.
Non, c'est les mauvaises herbes qui prennent toutes, puis le. Toute la sève ou l'humidité qu'il y a dans la terre. Puis le bon grain, il n'en reste pas. Il en souffre.
Alors, quand est-ce que vous avez fait l'expérience des tournesols?
Ça fait plusieurs années.
Qu'est-ce qui vous a convaincu d'essayer les tournesols?
Bien, c'est que le blé, il se vendait moins bien. Ou qu'on restait avec des inventaires de blé dans les graineries, presque d'une année à l'autre. Fait qu'on essayait d'autres choses, d'autres différentes sortes de cultures. La même chose avec le canola, même des pois à soupe. Puis on a même semé de la moutarde domestique.
Et puis à chaque fois, vous prenez des contrats de quelqu'un,
oui.
Comme Roi Légumex, par exemple?
Oui. Oui. Et ça, c'est surtout pour les pois.
Comment ça se passe quand il y a un contrat, quand on passe un contrat?
Ben, ils nous fournissent la semence, okay. Comme les gens, il faut payer pour. Mais là, c'est entendu que la récolte vient au contracteur.
Mm-hmm.
Je ne me souviens pas s'il y avait un prix déterminé. Ça arrivait de temps à autre qu'ils établissaient un prix. C'est ce prix-là qu'on avait. Même si eux autres, il fallait qu'ils vendent avec un marché, ils nous payaient ce prix-là. Mais c'est ça qui est un contrat. Hein. Mais c'est pas tout le temps. J'ai pas tout le temps été contracté. Mais on a fait avec les parents aussi. Puis, on a un contrat dans le sens que, OK, il faut livrer la récolte à eux autres.
Mm-hmm.
Mais on ferait de prix, mais non. C'était ouvert. Si on voulait attendre d'avoir un meilleur, ben on le gardait. Puis si on le vend tout de suite, on le vendait.
Donc, vous gardiez le prix ouvert?
Oui, plus souvent qu'autrement.
Et vous aviez le choix? Est-ce que les compagnies vous donnaient
le choix? Oui, il y a certaines compagnies, oui. Mais je ne sais pas, même on a entendu dire qu'il y avait des... C'était pas un contrat, je ne sais pas comment j'appelle ça. En tout cas, avec comme avec du lin, par exemple. Mm-hmm. Mais là, tu pourrais semer tant d'orques de lin à tel prix. Tu étais pour avoir tel prix l'année prochaine. Mm-hmm. Ben oui, mais s'il n'y a pas de récolte. Ah ben non, tu peux en acheter puis pour fournir ton contrat.
Oui, c'est ça.
Mais ça, on a jamais marché de main.
Vous n'avez jamais joué avec...
Non. Non.
Parce que ça, c'est vraiment comme jouer la bourse des grains, quoi.
Oui. Non, on n'a pas rentré dedans.
Est-ce qu'il y en avait des fermiers dans la région que vous connaissiez qui jouaient ça?
Oui.
Des gens de votre génération?
Oui. Ils ont fait assez bien. Je sais pas, nous autres, c'est un peu comme ceux qui jouent à la bourse.
Oui.
Mais n'ont jamais été tentés de me lancer là-dedans. Non, je disais moi-même, c'est la même chose avec les caisses. Il y en a qui disent, ben oui, mais si, là, si on peut avoir un 0,5% dans l'autre caisse, on va l'envoyer là. Non, moi, c'était pas mon...
votre manière de faire.
Ma manière de faire. Mais je disais moi-même, c'est de l'argent qu'on a dans le surplus. Bon, ben là, on a la place là. Si les autres ont besoin, on va leur aider. C'est ça qui était mon but. Si on n'avait pas besoin pour de suite, on la mettait là. En attendant du besoin, ben là, en attendant cela, ben d'autres pour s'en servir. C'est ça qui était il y a un mot pour ça, là.
La philosophie.
Et puis, est-ce que cette philosophie était partagée par vos trois frères? Est-ce qu'ils le faisaient?
Non, on avait chacun la nôtre. Nous, on avait beau en parler, mais non. Les autres, c'était d'aller au plus vite. Là, puis, non, c'était pas la même, pas la même mentalité.
Bon, mais alors, comment c'est possible qu'une entente entre quatre frères fonctionne avec un qui a une mentalité différente? Là, il faut que vous m'expliquiez ça.
Non, mais je suis peut-être embarqué dans quelque chose, là, mais non. On a marché pendant, c'est 20 ans, 26 ans. Mm-hmm. Puis je me souviens encore, dans les sorties qu'on faisait là, avec d'autres gens, soit des assemblées de betteraves ou, en tout cas, ils savaient un peu notre façon d'opérer. Mm-hmm. Puis ils demandaient, mais comment il faut faire quatre en travaillant ensemble, puis... Mais qui c'est qui est le maître de ça? Qui c'est qui est le patron?
Oui, ah, ben, oui.
Non, je réponds, il n'y a pas. Il n'y a pas de patron. Il s'agit de s'entendre. Puis, même, je ne sais pas si c'est celui qui en a parlé. Là. En tout cas, il y en a qui se sont essayés. Ben, ils disent, on va essayer de faire comme eux autres. Ça ne marchera pas.
C'est ça.
Mais il faut s'entendre.
Et quelle est à ce moment-là la base de l'entente? Il y a un secret, là,
secret, je ne sais pas si c'est ça, mais...
Il y en a
là-dessus,
ça?
Je pense pas.
Non. Ça, c'est le... À chaque fois qu'ils se rencontraient, au moins une fois par mois, ils prenaient des décisions, c'était tout écrit.
Moi.
Ils partageaient,
Ah oui, mais ça serait un merveilleux document pour, à un moment donné, le Centre du patrimoine. Ne le jetez pas.
C'est qu'à toi et moi, on se rencontrait.
Il fallait qu'il
puis, oui.
Okay, donc.
Puis on était tous au courant au point de vue financier, où ce qu'on était.
Ah, OK.
Puis si on avait des machines qui étaient dues à être changées, on décidait ensemble. Pas autrement. On n'a jamais changé quoi que ce soit de s'en parler à l'autre.
C'est formidable quand même.
Ben,
mais alors, vous preniez la décision à l'unanimité?
Oui, oui. Ben,
trois contre un?
Oui, la majorité. Ouais.
La majorité.
Oui, si il y en avait trois qui étaient pauvres, puis l'autre, je dis, ben, coudonc.
Parce que ce qui est le secret, comme je l'imagine, c'est que, bon, il y a d'une part cette entente-là, mais aussi, puisque vous partagiez les revenus en quatre, mm-hmm. il fallait que chacun soit convaincu que l'autre travaillait bien.
Oui. On avait un peu chacun notre spécialité.
OK.
Comme voilà tout à l'heure que moi j'étais dans la betterave, ben, je m'occupais surtout de ça. Je ne faisais pas rien que ça, mais c'était mon le principal. Puis d'autres, c'était comme préparer le terrain pour semer. Bon, c'était son ouvrage, ça. Puis comme pour le souhaiter, ben, là, c'est son ouvrage. Quand il rentre le temps de battre, ben, c'est d'autres qui le faisaient. Puis je pense qu'en faisant la même chose, après tout le temps, on se spécialisait.
Ça s'est fait tout naturellement?
Oui, oui. Non, on n'a pas choisi.
Non. C'est un petit peu comme ce que vous me disiez pour qui... C'est pas le père qui a dit, « Bon, toi, tu vas traire les vaches. »
Oui, oui.
C'est qu'à un moment donné, il y a comme un mouvement naturel.
Oui, je pense que c'est ça. On ne voit pas d'autre. C'est pour ça que je pense qu'on a pu continuer, on a pu marcher. Puis c'était quand même un peu la suite de ce que c'est qu'on avait appris avant.
Alors au niveau humain, là on est vraiment dans l'humain complètement, là, puisque vous avez parlé des philosophies personnelles. Là. J'imagine que bon, il y a quatre frères, donc ça implique les familles. Alors est-ce qu'il faut qu'il y ait un accord au niveau des femmes aussi? Est-ce que... est-ce que les femmes pouvaient jouer un rôle?
Ben, pas tellement. Au point de vue décision, non.
Pas du tout.
Non.
Moi, je prenais les notes, là.
Oui.
Et c'est eux autres qui décidaient.
C'était comme la secrétaire.
Je ne votais pas du tout, là. Ça, c'était les autres. Puis les autres femmes venaient pas.
Alors, vous étiez la secrétaire.
La secrétaire. Je faisais la comptabilité avec Henri, là.
Alors, venez m'expliquer ça un petit peu, là. C'est à votre tour de parler.
Oui.
Expliquez-moi, parce que là, vous avez donc pris véritablement
oui.
une part active importante.
Oui, dans
vous
le sens
Vous étiez maîtresse
que...
d'école.
Oui.
Donc, vous pouviez écrire.
Oui.
Prendre des notes.
Oui. Et puis, quand il y avait des choses à discuter, ça se fait comme dans toutes les assemblées. Il y en a un qui propose quelque chose. Ils l'étudient ensemble. Puis là, à la suite de ça, bien, il y a une décision qui est prise, c'est enregistré dans le cahier.
C'est adopté.
Toujours à l'unanimité. Parce qu'ils se parlaient avant, là. Puis c'est comme ça que ça se faisait. Puis moi, bien, je m'occupais aussi de la comptabilité pour présenter nos rapports aux comptables tous les ans. Et puis, ils étaient toujours surpris de comment est-ce qu'on pouvait arriver. Quatre familles à vivre ensemble avec si peu de terrain. Pour lui, c'était pas beaucoup ce qu'on avait. 2000 acres en tout, pour quatre. Et on dit, il y en a qui en ont bien plus que ça, rien que pour une famille. Mais on arrivait bien, puis on vivait bien. Puis, je ne sais pas que ça dépendait, mais il y avait sûrement, chacun apportait, comme il disait, son talent pour travailler. Et puis, c'est comme ça, ça se faisait tout seul.
Et vous êtes devenue aussi tout naturellement la secrétaire.
Oui.
Mais pour la comptabilité, est-ce que vous avez pris des cours?
Non, pas du tout. Non. Je faisais la comptabilité même dans le temps de son père, parce que son père, à la fin, commençait à ne plus être trop capable. Je faisais les rapports d'impôts pour lui. Mais à un moment donné, c'était trop compliqué. Puis il y avait des avantages à avoir un comptable pour nous dire des choses qu'on peut avoir d'un an à l'autre, il y a toujours du nouveau hein, pour le gouvernement. Alors, on a commencé à avoir un comptable, et puis, je pense, Capital Accounting, des premières années, puis ça n'a pas été long. Après ça, on a eu Lucien Guénette. Et là, ça a été une vraie merveille. C'est lui qui nous disait un peu, vous pouvez faire ci ou faire ça. Il nous aidait dans le sens que, financièrement, des bonnes choses à faire, des bonnes décisions. Il nous a beaucoup, beaucoup aidés. Puis tout le monde s'entendait bien avec. Bon, c'était un plaisir d'aller le rencontrer pour l'impôt, là. Il était humain, ça, cet homme-là. Moi, je voudrais dire que c'était un homme accueillant, bon. Puis il ne parlait pas juste d'affaires. Même des fois, c'est des affaires personnelles qu'il nous racontait, là. Et puis on a dit qu'on était son confident de toutes sortes d'affaires. C'était incroyable, les bonnes relations qu'on avait
avec
lui.
Oui, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une excellente entente.
Oui.
Il faut que le comptable agréé veuille votre bien, vous dise, Là, c'est le temps d'acheter une machinerie parce que tu peux la déduire ou faire attention.
Oui, c'est ça. Ils nous conseillaient dans ce sens-là. Parce que les vraies décisions, c'est eux autres qui les prenaient. Mais quand c'était des choses délicates au point de vue impôt, là, on référait à lui. Parce que
Alors, vous étiez régulièrement en contact avec Lucien Guénette?
Oui, mais pas si souvent que ça, quand même.
Non,
c'était surtout quand on a remplissé des rapports d'impôt.
J'ai regardé ça un peu avant dîner. Puis, il y a une place là, que je ne sais pas si l'état financier était moins bon, puis il était question de changer de combine. En tout cas, ça dit qu'on avait rencontré M. Guénette pour en parler si ça serait une bonne chose de faire ça. Oui. Fait que...
Est-ce que, donc, à partir au début, bon, c'est une association toute simple? En 66. En 77, le comptable agréé Jean-Paul Gobeil vous suggère d'établir une société. Mm-hmm. Et puis, est-ce qu'à un moment donné, il est question d'établir des budgets?
Ça, non. Pas que... Je ne me souviens pas de ça.
Alors, vous n'avez jamais vraiment fait de budget?
Non, non.
Alors, la clé pour être à la hauteur pour les finances, c'est quoi la clé?
C'est quoi? C'est qu'on donnait un rapport financier à chaque membre, à chaque frère, de l'état de compte qu'on avait à la banque, à la caisse. Ça, on faisait affaire avec la caisse. Et puis, de cette façon-là, ils voyaient ce qu'on avait en main. On décidait s'il y avait des gros achats à faire. On savait qu'est-ce qu'on pouvait faire parce qu'on savait qu'est-ce qu'on avait dans la banque. C'est pas compliqué. Et puis, c'est comme ça qu'on opérait. Mais on ne se faisait pas un budget à l'avance, non? Ils ne croyaient pas au budget, eux autres, personne.
Moi, je n'y crois pas encore non plus. C'est que, et des fois, on essaye, ah, ben, disons, on va essayer d'en faire un. Puis, à un moment donné, on est rendu au bout, mais on a besoin de ça. Ben, tu te dépasses quand même. Fait que, pour ne pas en avoir un budget. Tu vois, d'après ce que qu'est-ce que tu as? Si tu es capable, ou tu l'as fait.
Puis, parfois, puis, même si on n'était pas capable, il faut aller emprunter peut-être un peu. Hein, pour acheter de quoi qu'on savait qu'avec ça, ça irait plus vite, mettons, pour travailler au champ, là, ça, il ménagerait sur d'autres choses, etc., etc. On venait toujours à bout de s'entendre, et puis des fois, même, on était obligé d'emprunter un petit peu pour combler les vides. Là, il n'y en avait pas assez. Ça arrivait, parce qu'il y a des années que c'était pas trop très bon.
Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'années... Non, mais je peux... Non. Est-ce qu'il y a eu... Rarement des années dures?
Rarement dures, dans le sens que manque de récolte?
Oui, dans le sens que vraiment, là, financièrement, là, bon, budget, pas budget, les finances sont vraiment serrées?
Bon, ça a déjà arrivé. Oui, je me souviens, on n'était pas encore dans le marché du travail trop, là, mais c'est la deuxième année qu'on a eu des betteraves. Je me souviens qu'on n'a rien fait avec.
C'était en quelle année, ça?
Non, en 41.
Vous n'étiez pas les quatre ensemble?
Non, mais c'est... On change de métro de sujet.
Non, du tout. Je pense que ce qu'on veut, c'est approfondir les sujets. Si maintenant, c'est le temps de parler des betteraves...
Ben, c'est que... C'est pas que c'est venu à l'idée,
oui,
là. Puis, en tout cas, cette année-là, il fallait engager des hommes pour l'éclaircissage de betteraves, mm-hmm. Puis la récolte aussi. Puis tout court que là, l'hiver est arrivé un peu trop vite. On n'avait pas fini. Je me souviens encore que c'était après l'école, 41. Je pense à l'école encore. En tout cas, les betteraves étaient toutes. La feuille était coupée à main, avec des couteaux. Mm-hmm. Puis là, on mettait ça en tas. Puis quand c'était un peu trop loin, on a commencé un autre tas. Mm-hmm. Puis là, quand c'est venu pour ramasser ça, on ramassait ça à fourche. C'était pas avec un tracteur, c'était à fourche à la main. Puis, en plus de ça, quand il avait mouillé dessus, c'était tout gelé. Puis, il a commencé par le casser ça avec un pic. Pour après ça, tu lui prenais ça par le bâton, puis tu mets ça dans le camion. Puis, en tout cas, ça a fini cette année-là. Non. Ça a été juste pour boucler les dépenses. On n'a rien fait.
Alors,
avec les betteraves. Le grain, les céréales, c'était un peu meilleur, mais c'est parce que. Non, la saison n'a pas été assez longue. Puis une autre année aussi, ça c'était en 69. Ça, là, il y a beaucoup de betteraves qui sont restées dans le champ.
Et c'était quoi le problème en 69?
C'est que, justement, on a, La récolte était belle. Quand on a commencé, c'était merveilleux, 100% de bonnes conditions. Après ça, il a commencé à pleuvoir. Puis, là, ça ne séchait plus. Puis là, c'est pour ça que ça a gelé. On a essayé de différentes sortes de machines pour essayer de rembourser la récolte de betteraves. Puis, non, il a fallu abandonner. On remboursait plus de terre que de betteraves. Que, puis là, il y a eu une grosse perte. Puis après que c'est gelé dans le champ, là, quand ça dégèle, ça pourrit. Ça ne se garde pas. On peut garder une betterave gelée en tas.
Oui.
Puis, mais là, mais quand ça dégèle, après ça, là ça pourrit. Si ça reste gelé, correct. Puis avant tas, en hiver, ils peuvent la prendre pour la processer, pour faire du sucre. Il n'est pas dégelé. Mais quand ça dégèle le printemps, là, c'est comme du fumier.
Ça sent bien.
Ah, le on voyait un autre.
Il y a eu le temps de fermentation.
Fermentation. Ah, oui.
Alors, qu'est-ce qui arrive avec une terre où il y a des betteraves là-dedans qui sont pourries, là?
Ça fait comme un genre d'engrais. Oui. C'est pas une perte totale, mais pour l'année même, là, c'est pas pour trop productif.
Alors, vous me disiez que